J'aimerais maintenant inviter les membres de la table ronde de demander des questions. Nous avons entendu trois catégories de mythes et de réalités, si je peux m'exprimer ainsi. Il y avait plusieurs messages dans chaque présentation, mais un des messages que j'ai retenu de la présentation de Nathalie, c'est que le statut de santé des minorités linguistiques n'est pas nécessairement lié aux variables linguistiques et culturelles. Il y a peut-être d'autres variables qui sont plus difficiles à identifier, mais qui peuvent interagir avec l'élément linguistique. Richard nous a indiqué que les institutions qui soutiennent la vitalité d'une communauté, surtout la vitalité linguistique et culturelle de communauté, peuvent travailler de façon isolée, ce qui a un effet négatif sur la vitalité de la communauté. Ce qui rappelle l'importance de cette vitalité linguistique. Et il a démontré comment le statut de santé et l'état de santé est vraiment lié à l'absence ou à la présence de cette vitalité. Nous avons également entendu parler des mythes sur les interprètes et des différentes situations où les services d'interprétation seraient nécessaires, mais qui ne sont pas fournis de la bonne façon. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport au sujet soulevé par nos conférenciers? Il y a un autre mythe que j'aimerais mettre de l'avant. J'aimerais connaître votre opinion. Les communautés anglophones et les communautés francophones et le taux de bilinguisme est très élevé, plus élevé que le bilinguisme dans la population moyenne du Canada. Donc, il y a un mythe lorsqu'il en vient aux services de santé que les communautés anglophones n'ont pas nécessairement besoin des services dans leur propre langue car il s'agit de populations bilingues. Ou que il y a un autre mythe par rapport au manque de ressources et qu'il ne serait pas nécessaire d'utiliser de services d'interprétation étant donné le manque de ressources. Je comprends bien votre affirmation. Est-ce que vous pouvez juste répéter la question que vous avez soulevée? Le taux de bilinguisme dans la population anglophone du Québec est très élevé. La même chose pour les francophones à l'extérieur du Québec. Ainsi, le mythe que ces personnes devraient pouvoir avoir recours aux services en français, qu'on n'a pas besoin de fournir des services en anglais au Québec, car ces populations sont bilingues. La même chose s'applique aux communautés francophones à l'extérieur du Québec. Je travaille surtout avec la communauté allophone, mais il y a toujours des lacunes qui sont alimentées par ces idées préconçues dans nos institutions. Je crois que le français est disponible de façon généralisée, mais je n'ai peut-être pas le meilleur français. Je n'ai pas la même maîtrise qu'une personne qui a le français comme langue maternelle. Donc, je vais essayer de fournir des services en français dans la mesure du possible. Mais vous avez raison, peut-être qu'il y a des régions où les minorités francophones peuvent être négligées ou les minorités anglophones ici au Québec peuvent être négligées dans leurs besoins. Et ce serait peut-être parmi nos priorités qu'on peut savoir. Ce que nous avons vu avec les minorités langagières en vertu des langues officielles, à la fois pour la santé et pour l'éducation, ces minorités de langue officielle ont lutté pour obtenir leurs propres institutions. Les hôpitaux francophones à l'extérieur du Québec, à Moncton, c'était très important d'avoir un hôpital francophone et Montfort était un très bon exemple en Ontario. Il y a donc l'idée que la bonne volonté individuelle ne sera pas suffisante pour les minorités, surtout lorsqu'on parle de santé et d'éducation et autres domaines que j'ai mentionnés. Donc, les minorités des langues officielles doivent lutter, mettre des efforts pour créer leurs institutions. Ce sont les praticiens de ces communautés qui ont l'opportunité de développer leurs propres habiletés et contribuer à la vitalité des communautés. Et la même chose pour les Mohawks qui sont très fiers de développer leurs propres services de santé pour fournir des services en langue Mohawk pour des services sensibles à la langue. Donc, c'est des exemples de vitalité institutionnelle. Et cela dépend toujours de la bonne volonté de la majorité dominante qui fournira ou ne fournira pas les ressources pour ces institutions. Le Reynold Donald de l'Université Concordia. Je suis historienne de formation et parmi les projets sur lesquels j'ai travaillé sur l'histoire des communautés anglophones du Québec. J'ai travaillé sur les Irlandais et les Juifs de la ville de Québec. Ce que j'ai remarqué ce matin, c'est que nous créons une dichotomie des groupes ethno-culturels, c'est-à-dire les groupes issus d'immigration récente et les anglophones. Alors que je suggérais que les anglophones sont composés de plusieurs groupes ethnoculturels. Peut-être que leur langue maternelle est l'anglais, mais ils ont peut-être des racines historiques qui remontent à d'autres cultures. Ma question pour la table ronde, est-ce que vous voyez un effet sur la prestation de services de santé, la prestation de services de santé mentaux? Je peux croire qu'une personne d'un milieu urbain d'origine irlandaise a d'autres besoins de santé qu'une personne anglophone dans un milieu urbain d'origine juive. Laurence pourra peut-être se prononcer ceci. Une personne dont la langue maternelle est l'anglais ou le français peut avoir des différences culturelles ou des traditions différentes ou des croyances religieuses différentes et autres conceptions de la santé. Donc, vous venez de soulever la question où est-ce qu'une personne peut parler parfaitement dans une langue que vous connaissez, mais qu'il peut tout de même y avoir des problèmes à bien comprendre les problèmes de santé. Ou essayer d'aider quelqu'un à suivre un cheminement de traitement particulier. Mais je crois que votre énoncé est tout à fait pertinent. Ce qui est important aussi, lorsqu'il y a une majorité dominante de francophones, lorsque cette majorité dominante garantit des services de santé pour les communautés anglophones, ça crée un climat ou un contexte qui favorise les soins de santé plus sensibles à la diversité culturelle, ce qui alimente le pluralisme dans les institutions. Étant donné le statut des deux langues officielles, on doit commencer avec les anglophones au Québec et les francophones à l'extérieur du Québec. Il faut enchâsser ces droits, ce qui peut être utilisé pour pousser pour davantage de services sensibles aux cultures, pour les communautés allophones, pour les autres groupes d'arrivants plus récents. Le bilinguisme officiel a soutenu les politiques de multiculturalisme. Étant donné que nous avons la reconnaissance des deux langues officielles dans la Constitution, cette réalité est enchâssée dans la Constitution et ce qui crée un environnement plus ouvert aux réalités culturelles. Dans la prochaine table ronde, nous allons peut-être entendre parler des problèmes parallèles dans la communauté francophone ou la francophonie à plusieurs groupes culturels au sein de la francophonie. J'aimerais remercier toutes les conférenciers de la table ronde pour des sujets très stimulants et très enrichissants. Eric et moi avons beaucoup insisté sur l'utilisation des services d'interprète. Et ce n'est pas vraiment pour réduire la mesure d'écart, mais c'est pour rendre plus courantes des institutions qui intègrent le multiculturalisme. multiculturalisme. Vous avez parlé de la vitalité des communautés qui ont leurs propres institutions. Je pense qu'il peut y avoir des problèmes par rapport à l'accès aux services aux États-Unis. Par exemple, on dit que si on est hispanophone, on doit aller dans un hôpital hispanique. Ce qui peut avoir un effet négatif sur la diversité dans l'ensemble des institutions. On peut aussi voir l'histoire de l'hôpital juif qui a été construit par une communauté à cause du racisme institutionnalisé dans d'autres institutions. Ce qui a mené à un environnement très diversifié et qui se démène pour répondre à cette diversité. Mais les interprètes ne sont pas la solution idéale. La solution idéale serait d'avoir une diversité dans les effectifs et devrait être récompensée pour avoir la maîtrise de plusieurs langues, ce qui pourrait être lié au protectionnisme de nos professions et ce qui permet à l'accès à des emplois dans les institutions pour des personnes provenant de ces minorités. Ce sont des enjeux auxquels nous devrons nous attarder. Merci. Avez-vous d'autres questions ou commentaires? Oui. Jennifer Johnson. Je viens du réseau des services de santé et services communautaires. Nous avons mené un sondage récemment sur nos réseaux de santé dans la province. Nous voulons savoir quelles étaient les priorités en matière de services de santé et services sociaux. Nous avons la population âgée, les jeunes comme priorité, mais la santé mentale suit de près ces priorités. Je suis préoccupé par les communautés anglophones à l'extérieur de l'île de Montréal qui n'ont pas d'institutions désignées. Ces communautés ont pas toujours accès à du personnel qui peuvent répondre à leurs besoins. Je voulais être sûr que ce soit mentionné dans notre discussion. J'aimerais qu'on note l'importance de répondre aux besoins d'une communauté qui est désavantagée dans l'accès aux services de santé, aux services sociaux et aux services de santé mentale qui dépend énormément de la langue. La santé mentale nécessite une sensibilité au niveau de la langue pour bien déceler les problèmes réels de la situation. Nous allons prendre le dernier commentaire ou question avant la pause. Je suis Michael Udy. Au cours des dernières années, j'ai travaillé sur deux projets différents. J'ai interrogé des membres ordinaires des différentes communautés anglophones du Québec. J'ai interrogé également des prestataires de services de santé et de services sociaux. Et j'ai aussi interrogé des personnes qui font la promotion de l'accès à des services de santé et des services sociaux en anglais. J'aimerais dire que les anglophones sont de plus en plus bilingues comme groupe, ce qui n'est pas nécessairement vrai pour les anglophones plus âgés. Mais pour les anglophones qui peuvent parler français, le problème d'accès n'est plus aussi important, car leur niveau de français est suffisant pour avoir accès à des services adéquats. J'aimerais juste résumer ce que j'ai entendu au sujet. Si on a une blessure à la peau et nécessite des points de suture, c'est un service qui peut être offert en français. Mais si on me donne l'information qui pourrait compromettre mon avenir et qui pourrait signifier que je vais décéder, j'aimerais mieux parler de cette question de santé dans ma langue d'origine, dans ma langue maternelle, pour bien saisir toutes les nuances. Donc, lorsqu'on parle de sujets délicats, comme une dépendance ou une toxicomanie, et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette problématique de santé, le niveau de clarté, de précision, de réconfort est beaucoup plus important. Donc, la réponse que j'ai entendue Est-ce que le service pourrait être offert en français? Tout dépend de la nature du service demandé. Nous allons terminer notre première table ronde. Nous allons prendre une pause de 10 minutes et nous allons revenir pour la deuxième table ronde. J'aimerais demander aux membres de la deuxième table ronde de venir me rejoindre pour que je puisse partager quelques mots avec eux.